Écoula, Reftov, on va donc pouvoir démarrer notre cours. Alors, oui, effectivement, on parle donc de Parashat Hashavua, on parle de Parashat Shlach, Parashat Ameraglim, mais le cours d'aujourd'hui va être un petit peu particulier. J'ai appelé ce cours Antisionisme hier et aujourd'hui. Et donc, c'est ce qu'on va essayer de faire. On va essayer de voir qu'en fait, cette faute des explorateurs, certes, a commencé avec Moshe, à l'époque de Moshe, mais on va voir qu'elle revient dans l'histoire et que finalement, eh bien, il y a une tendance à la méragliout, une tendance à ne pas vouloir accepter la volonté du Créateur, car je vais ouvrir le cours en enfonçant une porte ouverte. Ce cours ne va pas être un cours proprement parler de halakha. C'est-à-dire qu'on ne va pas ici débattre sur est-ce qu'il faut monter en Israël ou est-ce qu'il ne faut pas monter en Israël. Ici, nous allons prendre comme postulat de départ que nous sommes des Juifs très simples. Très simples, ça veut dire quoi très simple? Eh bien, ça veut dire que Maché Katouv, Ani Mevin. Zemot Pashut, Ani Chole Hadash, Ve'ani Roe Bakatu, Ve'mani Ose. C'est-à-dire, on va être très simple à ce niveau-là et on ne va pas rentrer dans les pilpoulim halakhiques. Est-ce que ça a lieu d'être aujourd'hui? Ça n'a pas lieu d'être? Est-ce que c'est une mitzvah les Dorot? C'est pas une mitzvah les Dorot? Et qu'est-ce qu'il dit un tel? Et qu'est-ce qu'il dit un tel? Aujourd'hui, nous allons tout simplement essayer de prendre comme postulat de départ le fait. Eh bien, tout simplement que Dieu nous a dit dans la Torah qu'il faut venir en Israël. Dieu nous a demandé de venir en Israël. Pardon?
On ne voit que la moitié, sur le titre.
Alors, attends voir.
Voilà.
Attends, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que là, ça veut. Voilà. Ok. Attends. Attends, c'est compliqué. Compliqué, il faut faire tenir ce machin. Attends, on va trouver un autre endroit, un meilleur spot. Un meilleur spot. Hop là, hop là, hop là. Voilà, attends. Oh là 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 là, Houston, we've got a problem. Et. Yofi, ça marche là? Yofi. Donc, on va prendre comme postulat de départ, comme je disais. Eh bien, la réalité est toute simple, qu'il y a un verset de la Torah, et pas qu'un évidemment, qui nous dit qu'il faut venir en Israël. Donc, à partir de là, on ne va pas commencer à rentrer dans le débat halakhique. Oui, mais le Megillat Esther, il a dit que c'était une mitzvah qui était qu'à l'époque du temple, et puis de. On ne rentre pas dans ces considérations-là. Tzarich liot Adam Pashut, Tamim Tiyei Mashem Elohecha, et Akadosh Baruch Hu nous a demandé de venir en Israël, point. Et si on commence à essayer de se trouver des excuses comme ça, eh bien, on n'est pas sorti de l'auberge. Dans la Torah, quand on regarde la paracha de cette semaine et la faute des explorateurs, eh bien, il paraît évident dans le texte de la Torah que le fait d'avoir préféré rester en dehors d'Israël, eh bien, c'était pas bien. Et pas choute, on n'a pas besoin de se la jouer dans tous les sens. Et donc, ce qu'on va essayer de comprendre ce soir, c'est comment, au fur et à mesure des générations, eh bien, à chaque fois qu'il y a eu un élan de volonté de retour en Israël, eh bien, cet élan a été brisé, ou du moins, pas forcément brisé, mais du moins ralenti par certaines personnes qui, et je le dis sans en être certain, sans avoir de preuves kabbalistiques que dans ce que je dis, mais qui sont, à mon sens, des Gilgoulim, des réincarnations de ces explorateurs, c'est-à-dire du moins de leurs idées. Ils sont les fils spirituels des explorateurs. Et il est évident, et là encore, on va prendre comme postulat de départ, qu'il ne s'agit pas ici de Stam Rechaim. Les explorateurs, comme vous le savez tous, étaient des Tzadikim. Donc, je vais pas me concentrer là maintenant sur les explorateurs. On va revenir à l'origine donc de la faute à la fin de notre étude. Pour l'instant, on va se concentrer sur les autres époques. Et donc, eh bien, la prochaine fois qu'il va y avoir la possibilité de revenir en Israël, eh bien, c'est une fois, on est dans le Tanakh, on est dans le Tanakh et on est en l'an moins 701. En l'an moins 701, nous sommes donc dans l'époque du premier Beth Amikdash. Certes, nous ne sommes pas en exil et on doit en revenir, mais il y a une tendance qui se met en place au sein du peuple juif de vouloir accepter la résolution de l'exil, de vouloir accepter le fait que le peuple juif ne devrait pas être souverain, qu'il devrait être soumis au bon vouloir des nations. C'est également eh bien, un guilgoul de ces explorateurs. Alors, de qui je parle ? Nous sommes dans le livre de Melachim, et dans le livre de Melachim, nous avons le droit à l'histoire de Sanhérive, qui, après avoir détruit le royaume du nord d'Israël, eh bien, s'attaque maintenant au royaume du sud. Il avait détruit en moins 721 le royaume du nord d'Israël. Et 20 ans plus tard, il s'attaque au royaume du sud, le royaume de Judée, dirigé par le roi Ézéchias, ou en français, enfin en français et en hébreu, Chizkiyahou. Chizkiyahou voit Sanhérive arriver et a peur d'une chose. Il sait qu'au sein de son peuple et dans la ville de Jérusalem, la dissidence gronde. Comment cela, la dissidence gronde ? Qu'est-ce que ça veut dire, la dissidence gronde ? Eh bien, tout simplement, Rabotai, cela veut dire qu'il y a des gens qui sont extrêmement motivés par suivre un bonhomme. Le bonhomme en question s'appelle Shevna. Shevna Asher Alabait. Mais qui est ce Shevna ? Shevna Asopher, on l'appellera également. Shevna, c'est tout simplement l'un des personnages les plus en vue de l'époque de Chizkiyahou. Tout le monde est là. Tout le monde est là à son shiur. La Gemara, dans le traité de Sanhedrin, nous dira même que dans le shiur de Shevna, il y avait 130 000 personnes. Bon, je pense que la Gemara exagère un tout petit chlouk. Mais ce n'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est de nous dire que dans le même temps, Chizkiyahou, qui était le roi, faisait lui aussi un shiur. Et dans son shiur, il n'y avait que 110 personnes. 110 000, excuse-moi, 110 000 personnes. Donc, ça veut dire quoi ? Eh bien, ça veut dire que Shevna avait plus de succès que Chizkiyahou. Et quelle était la grande différence entre les deux ? Eh bien, alors que Chizkiyahou n'était pas prêt à donner les clés de Jérusalem à Sanhérive, Shevna, lui, était prêt à donner les clés de Jérusalem à Sanhérive. Et la Gemara, donc, dans le traité de Sanhédrin, va nous parler de cette histoire-là et va nous raconter les pensées profondes de Chizkiyahou, qui a très peur, parce qu'il sait que la Torah, la Halakha, se décide au plus grand nombre. Et donc, il a peur que, suite au fait que Shevna est plus nombreux dans son équipe que lui-même, eh bien que Dieu n'intercède en sa faveur, n'aille de son côté, et que donc il faille donner Jérusalem à Sanhérive. C'est ce qu'il a l'intention de faire. Il va même envoyer une flèche par-delà la muraille de Jérusalem avec un message disant « Écoute, sache que nous, on est prêts à t'ouvrir les portes de la ville, et c'est juste Chizkiyahou qui n'est pas prêt. » Donc il a très peur, le roi. Il prie Dieu, et Dieu lui dit « Altidag ». C'est vrai que « Acharé rabim le'atot », c'est vrai que je fais la loi en fonction de la majorité. « Aval » en fonction d'une majorité de tzadikim. Or, « Shevna », il ne peut pas compter dans la majorité car il est « Racha ». La Gemara appelle ça, à propos du verset de Tehilim, « Kesher Reshaim Loye ». C'est-à-dire que pour Dieu, « Shevna » fait partie de ce qu'on appelle un groupe de « Reshaim ». Alors que je vous ai dit tout à l'heure que « Shevna » donnait un cours de Torah une fois par semaine, où il y avait 130 000 personnes. Alors, en quoi c'est un rachat ? C'est un rachat parce qu'il veut abandonner la ville et le pays, en fait, tout entier, aux mains de Sanhérive. Donc, on voit ici que ça commence à... On va commencer à avoir plusieurs, marqueurs par rapport à notre histoire des Meraglim. Les Meraglim sont des gens, et on va voir chaque fois pourquoi, qui ne veulent pas de la montée en Israël et de l'indépendance nationale. Mais ils ne le font pas simplement pour des raisons de richout, simplement pour bah, « Dieu, il a dit ça, donc je vais aller contre lui ». Absolument pas. Chacun d'entre eux pense avoir eh bien, une raison honnête et cachère de faire ce qu'ils vont faire. Le premier, donc, c'est Shevna qui essaye de briser l'élan de Chizkiyahou. Ça ne va pas marcher. La ville de Jérusalem sera sauvée. Shevna, entre parenthèses, la Gemara nous raconte l'histoire que finalement, il a réussi avec son groupe à ouvrir les portes. Il sort en premier au devant de Sanhérib pour le faire entrer. Et l'ange Gabriel, à ce moment-là, arrive et ferme les portes derrière Shevna, laissant toute son équipe dans la ville. Et donc, Sanhérib le voit arriver tout seul. Il dit, hello, le groupe que tu m'as promis. Il dit, bah, ils sont là, mais je comprends pas, ils sont pas là. Et finalement, il va se faire massacrer par Sanhérib. Ça, c'est la première fois qu'on voit bah, ce type d'explorateur après l'histoire des explorateurs. Ensuite, eh bien, il faut aller à la fin du Tanakh. À la fin du Tanakh, cette fois, bah, là, on parle vraiment de cela. On parle vraiment d'un moment où on est en exil et il est temps d'en ressortir. Nous sommes donc à la fin de l'exil de Babylone, les Perses, où nous sommes en moins 538, donc près de, allez, on va dire 160 ans après l'histoire de Shevna. Nous sommes donc en moins 538, et à ce moment-là, Koresh, Cyrus, roi de Perse, nous donne la possibilité de revenir en Israël. Un petit peu comme lorsque dans la Torah, Dieu nous dit « Yalla, il faut y aller ». Et à ce moment-là, eh bien, il y a des porte-drapeaux, évidemment. Comme Chizkiyahou était le porte-drapeau tout à l'heure, il y a un autre porte-drapeau ici, il s'appelle Zerubbabel, il s'appelle Haggai Hanavi, plus tard s'appellera Ezra et Nehemia. Donc il y a des porte-drapeaux de l'ordre de Dieu. Je vous rappelle que Haggai est un prophète et que c'est lui qui dit « il faut rentrer à la maison ». C'est lui qui va dire à Zerubbabel, qui est un descendant du roi David, « Yalla, on y va ». Ce qu'on va appeler « Shiva Tzion ». Seulement, malheureusement, eh bien, quand on lit le livre de Ezra, on se rendra bien compte que personne ne rentre. Personne ne rentre. Avec Zerubbabel ne rentrent que quelques centaines, voire quelques milliers, et avec Ezra, 40 000 sur tout le peuple juif. Et quand on lit encore plus en profondeur Ezra, on se rendra compte que parmi les gens qui viennent se trouvent tous les mécréants du peuple, les meurtriers, ceux qui sont mariés avec des non-juifs, et c'est eux qui reviennent en Israël. Où sont tous les high society du peuple juif? Eh bien, comme vous le savez, ils restent à Babylone. Alors, je ne veux pas parler de monsieur et madame qui restent à Babylone, mais la direction religieuse, elle reste à Babylone. Les rabbins restent dans les yeshivot de Babylone. Sura, Ardea, plus tard, beaucoup plus tard, Pumpedita. Et il faut vraiment se poser la question, qu'est-ce qui se passe là-bas? Lama emlobaim. Bébête, quand on se pose la question, alors Shevna, on sait pourquoi. Quand on regarde de près, tant dans le Talmud, dans le traité de Sanhédrin, comme je disais tout à l'heure, que dans le livre de Melachim, Shevna, il a un but. C'est très clair. Il veut être calife à la place du calife. C'est-à-dire qu'il se voit très bien prendre la place de Chizkiyahou une fois que Sanhérib sera rentré dans la ville. C'est pour ça que la Gemara nous dit qu'il a été même se faire creuser une tombe parmi les tombeaux des rois de David. Genre le mec, il veut prendre la place du calife. Mais est-ce que c'est le cas des Rachés et Chivot de Babylone? Pas du tout. Pas du tout. Alors pourquoi eux, ils ne veulent pas revenir? Qu'est-ce qui les dérange? Eh bien, quand on lit le livre de Ezra, ce n'est pas ce qu'on retrouve dans les commentateurs. Parce que lorsqu'on lit le livre de Ezra, on se rendra compte que ben, ils sont bien là où ils sont. C'est pour ça qu'ils ne veulent pas venir. Bon, évidemment, toute ressemblance avec des cas actuels serait purement fortuit involontaire. Mais dans le livre de Ezra, on voit qu'ils sont bien où ils sont. Alors que quand tu lis le Sefer HaKuzari, par exemple, eh bien, ce n'est pas qu'ils sont bien là où ils sont physiquement parlant. mais c'est que les rabbanim sont très 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 bien dans cette ambiance où ils ne peuvent que étudier la Torah. Et donc, ils te disent, ce que dira le Meller Kouzar lorsqu'il posera la question, mais alors comment ça se fait que, d'après ce que tu me dis, tout le monde devrait être en Israël? Pourquoi est-ce qu'il y a des juifs qui n'y sont pas? Et là, Rabbi Yehuda Halevi, eh bien, nous dit, voilà, tu mets le doigt sur l'endroit de ma honte, Meller Kouzar, parce qu'en fait, eh bien, quand on dit trois fois par jour, Vetechezena enenu beshuvecha letzion berachamim, eh bien, c'est sans intention qu'on le dit, on s'en fiche, on préfère bien rester à Babylone et ailleurs. Donc, nous avons ici pour les Olé Bavel et ceux qui ne montent pas de Babylone, deux nouvelles idéaux d'explorateurs. Alors, Shevna, c'était un idéal personnel, intéressé, alors que pour les Rishoné Bavel, eh bien, c'est soit parce que Tov Lanou Be Bavel, ou alors parce que, eh bien, nous pouvons nous consacrer entièrement à la Torah. Je vous rappelle, au cas où ça serait nécessaire, on a vu que Shevna, il était considéré comme Racha. Comment sont considérés les rabbins babyloniens? Eh bien, les rabbins babyloniens sont considérés pas tellement mieux. Et oui, et je ne suis pas en train de remettre en cause les Chachamim de Babel. Ce n'est pas moi qui les remets en cause, c'est eux-mêmes qui se remettent en cause. Lorsque vous verrez dans le Talmud l'histoire de Rabbi Zeira. Rabbi Zeira était un rav de Babylone. On est donc beaucoup plus tard, hein, évidemment. Mais si vous voulez, on est sur le même état d'esprit. Rabbi Zeira, finalement, est monté en Israël. Et quand il arrive en Israël, eh bien, il rencontre, il va au Chouk. Et là-bas, au Chouk, eh bien, il rencontre un marchand, je ne sais pas, de cornichons ou autre, qui lui dit « Je te déteste, babylonien ». Il a dû parler avec un accent babylonien. Il a dû dire « Bevakesha, attendez, la vili, Khamesh Kilo, Melafifon. » Bevakesha. Donc, il a reconnu l'accent. Il a dit « Je te hais, babylonien, car c'est à cause de toi qu'on n'a pas eu de grand miracle avec Ezra comme on a eu à la sortie d'Égypte. » Bizarre, reprendra Rabbi Yehuda Halevi donc dans le Kuzari, disant qu'effectivement, si on n'a pas eu de grand miracle pour la deuxième sortie d'exil, la sortie de Babel, c'est parce qu'on n'est pas venu. C'est parce que la majorité du peuple n'est pas venu et donc on n'a pas mérité d'avoir des miracles. Mais finalement, il va y avoir Shivat Zion. Finalement, cette minorité, eh bien, va marcher. Non seulement va marcher, mais va reconstruire la souveraineté juive petit à petit. D'abord, eh bien, une autonomie sous domination perse. Mais vous savez comme moi que va intervenir un peu plus tard, eh bien, le Mered Hachmonaïm. En moins 167 jusqu'en moins 164, la guerre de Hachmonaïm qui finalement va ramener notre indépendance nationale et donc évidemment notre rapport à Dieu, puisqu'on peut enfin recommencer à bosser comme il faut au Beit Sheni. Et donc, oui, bien sûr.
Parce que vous avez dit que Rachel Babel était mal considéré, mais quand même, c'est sûrement une attitude, mais il me semble avoir entendu que Rachel Babel, quand même, il y avait pas le public, Rachel Babel avait une grande place.
Ah, mais attention! Non, mais attention, deux secondes. Ils ont une grande place. Je ne remets absolument pas cela en cause. Ils ont une grande place. Ce sont nos Chachamim et c'est d'eux qu'on apprend la Torah. Il n'y a aucun problème. L'histoire que j'ai ramenée de Rabbi Zeira, où est-ce qu'elle est marquée? Dans le Talmud Bavli. C'est-à-dire que ce sont ces mêmes Chachamim de Babylone qui ne se sont pas auto-censurés et qui nous rapporte cette histoire-là. Mais cette histoire-là, j'en ai ramené une, mais elle n'est pas Boded. C'est-à-dire que les Chachamim de Babylone, alors, j'ai dit, il y a deux Tkoufot. Hein. Il y a la Tkoufa juste après la Tzarat Koresh, et il y a la Tkoufa qui viendra après, et beaucoup plus tard. Rabbi Zeira, il vient beaucoup plus tard. Rabbi Zeira, c'est le 4e, 5e siècle. Donc, on est dans une époque où, à ce moment-là, on est en plein dans la galoute après la destruction du deuxième temple. Donc, la question, elle n'est pas sur lui. Quand le vendeur de cornichons, il dit, ah, grave, je n'ai pas terminé l'histoire, mais Rabbi Zeira, une fois que le vendeur de cornichons lui a dit ça, il dit, bon, bah, ça va, c'est un vendeur de cornichons. Donc, il décide d'aller étudier la Torah. Il rentre dans le Bet Hamidrash de Rabbi Chiya, qui est le plus grand rabbin d'Eretz Israël à ce moment-là. Et il entend le Rabbi Chiya dire la même chose que l'avait dit le vendeur de cornichons. À ce moment-là, Rabbi Zeira va jeûner sans jeûne. Pourquoi ? Pour oublier tout le Talmud qu'il avait appris à Babylone, pour que rentre en lui le Talmud d'Eretz Israël. Bon, évidemment, ça ne veut pas dire qu'il a tout oublié. Ça veut simplement dire qu'il veut se préparer à une nouvelle façon de voir la Torah. Maintenant, là où c'est important de souligner, c'est que Rabbi Zeira, 5e siècle, c'est un peu tard. On est déjà après la destruction du temple, après tout. Donc, si tu veux, quand le Mocher Hamoutzim, il lui dit ça, en fait, il fait référence à ceux qui ne sont pas venus à l'époque de Ezra. OK ? Maintenant, il est évident qu'ils ne sont pas revenus, ils ne sont pas revenus, c'est un fait. Ça n'empêche pas leur grandeur de Torah. Et donc, évidemment qu'on doit étudier ce qu'ils disent. Il faut bien se rappeler une chose, et ça, c'est vrai dans tous les domaines de la halakha. C'est pas parce que ton avis halakhique n'a pas été retenu sur tel ou tel sujet que, un, on ne doit pas étudier ton avis, et deux, que ça veut dire que sur tous les sujets, tu as tort. OK ? Donc, là, on parle du sujet de Eretz Israël parce que c'est la paracha. Mais ça ne veut pas dire que sur d'autres sujets, ils ne peuvent pas avoir raison.
Non, mais ce qui est quand même interrogant, c'est que America Zagada la Rouhani, le plus grand, d'accord, était à Babel. Et
quand pas en Eretz Israël. Quand
À l'époque du Talmud Bavli.
Oui, mais c'est bien ce que je suis en train de te dire. Le Talmud Bavli, c'est la deuxième époque de Babylone. C'est au moment où il y a une destruction totale en Israël. C'est-à-dire qu'on est après coup. Tu comprends ? Si tu fais référence à la première époque, c'est-à-dire au moment où on peut repartir de Babylone, tu as encore raison. La majorité des Juifs reste à Babylone. Seulement, si pour la deuxième époque, c'est moins accusateur, parce qu'ils n'ont pas forcément la possibilité de venir, concrètement, les Byzantins sont là et c'est pas la joie, pour ce qui est de la première époque, là, c'est complètement accusateur. Parce que les prophètes te disent de venir, le roi des Goïms te dit de venir, et tu ne viens pas. OK ? Donc, il est évident que l'époque du Talmud Bavli va gagner. Pourquoi ? À cause des persécutions en Israël. N'oublie pas que pendant toute la première période du Talmud Bavli, c'est-à-dire entre les années 200 et, allez, 350, 400, le centre névralgique religieux, spirituel, Torah du peuple juif est à Jérusalem. Enfin, pas à Jérusalem, mais en Israël. C'est ce qu'on appelle le Talmud Yerushalmi. Et lorsqu'il y a une machloket entre Yerushalmi et Bavli, c'est le Yerushalmi qui gagne. Seulement, malheureusement, en 350-400, eh bien, terminé le Talmud Yerushalmi à cause des persécutions des Byzantins. Donc, à partir de ce moment-là, de facto, eh bien, le centre névralgique de la Torah passe à Babylone. OK ? Mais c'est pour des raisons historiques. Donc, justement, je ne veux pas me concentrer sur cette époque-là, tu vas voir pourquoi. Mais je reviens donc à Shivat Zion. Une fois que finalement, eh ben, y a Shivat Zion, même si c'est au départ une minorité, eh bien, finalement, avec Ezra et Nehemia, on reconstruit un pays, on reconstruit une autonomie qui va devenir une souveraineté. Maintenant, est-ce que ça veut dire que tous les Juifs sont revenus à ce moment-là ? Ben, évidemment que non. Évidemment que non. Et on va retrouver à l'époque du deuxième temple, donc on est à une époque où il y a le Beth Amikdash. Eh bien, on va quand même retrouver des grandes communautés juives en Chutz la'aretz qui ne veulent pas venir. Et non seulement qui ne veulent pas venir, mais qui vont mettre en place une alternative au Beth Amikdash. Et c'est ce qu'on appelle Beth Ronio. Beth Ronio, c'est au nom d'un mec qui possédait l'endroit qui s'appelait Ronio. Ils ont construit un temple en Égypte, à côté d'Alexandrie. Et c'est là-bas qu'ils ont mis un temple alternatif, si tu veux, au Beth Amikdash. Je ne te parle pas de Ovdei Avodah Zara, attention. Je ne parle pas de gens qui se sont hellénisés après Alexandre et qui ont fait un temple de Zeus. Pas du tout. Je te parle d'un temple pour Yudke Vavke. Tous les Korbanot et l'Elohe Israël. C'est des religieux, les mecs, qui sont à Beth Ronio. Mais t'entends bien, on parle ici de quoi ? D'un Mikdash juif alternative au Beth Amikdash de Jérusalem, Bechutz la'aretz. Ça paraît ouf. Ça paraît complètement fou. Mais d'où se basent les gens qui font Beth Ronio ? Eh bien, ils se basent sur Yirmiyahu Hanavi. Puisque Yirmiyahu Hanavi va accompagner, à l'époque de l'exil de Babylone, il va accompagner les Juifs qui partent en exil, s'installe avec eux en Égypte. Et c'est de là-bas qu'il va leur servir de repère, puisque c'est Yirmiyahu Hanavi. Yéhezkel, lui, va accompagner les Juifs à Babylone. Et il leur servira de repère, c'est Yéhezkel Hanavi. Donc, si tu veux, les gens, au début, vont suivre Yirmiyahu, qui est là et qui donne ses névoites et qui dit « Bon, ben, une mala à sort, mais vous inquiétez pas, un jour, on reviendra, nanana. » Et donc, les gens vont puiser là-dedans, beaucoup plus tard, pour dire que de l'Égypte, eh bien, il y a une force spirituelle énorme. Est-ce que ça a à voir avec le fait qu'à l'époque, la communauté juive d'Alexandrie est l'une des communautés juives les plus prospères de tout le monde juif? C'est toi qui vois. Si bien qu'on va avoir un autre témoignage, pas que Betronio, mais qu'on va avoir également le témoignage de ce qu'on appelle la lettre d'Aristéas envoyée à Philocratès, un livre bien connu de tous, évidemment. Aristéas est un juif qui envoie une lettre à son pote Philocratès, qui lui aussi est un juif. Et en fait, cette lettre, c'est un compte-rendu de la Septuaginta, un compte-rendu de la Septante, de la traduction de la Torah en grec, qui avait été demandé par le roi Ptolémée II Philadelphos. Maintenant, ce compte-rendu, il est écrit par des juifs, et il te montre comment les juifs d'Alexandrie, non seulement ils vivent comme des rois, mais en plus, ils sont tellement heureux qu'enfin, le centre de la Torah va être à Alexandrie. Je rappelle simplement qu'à ce moment-là, Chachmei Eretz Israël vont décréter que, non, vont pas décréter, ils vont dire que les ténèbres s'abattent sur le monde pendant 3 jours et qu'à cause de ça, on fait un jeûne, le 10 Tevet. Parce que la traduction de la Torah a eu lieu le 8 Tevet et il y a eu 3 jours de ténèbres, 8, 9 et 10 Tevet. C'est une des raisons pour lesquelles on jeûne le 10 Tevet. Donc, là encore, on va voir des gens qui voient en Chutz La'aretz une alternative légitime, Betronio, au Bet Amigdash. Agav, les Chachamim dans le Talmud de Babylone et de Jérusalem ont un rapport assez ambivalent avec Betronio. Pendant l'époque du Bet Amigdash, ils sont très critiques. Mais une fois que le Bet Amigdash est détruit, ils disent que Moutar l'akriv be Betronio. Parce que c'est un Migdash pour Dieu. Finalement, Betronio, de toute façon, va être détruit. Et donc, terminé, tout le monde descend. Mais là encore, donc, on voit que face au moment où il y a un repeuplement d'Israël, on a après les Hashmonaïm, donc ça y est, on est souverain et donc les gens peuvent revenir, eh bien, on voit qu'il y a encore une fois des gens qui, sous couvert de vestiges de la névoie, eh bien, décident de rester ailleurs, là, en l'occurrence, en Égypte. Mais là encore, eh bien, l'histoire va faire son œuvre, et bien finalement, c'est quand même Eretz Israël qui va gagner. Puisque au final, dans l'époque du Deuxième Temple, à la fin du Deuxième Temple, eh bien le centre juif est redevenu Jérusalem. Mais qu'est-ce qui se passe après la destruction du Deuxième Temple? Après la destruction du Deuxième Temple, on arrive dans une période, si tu veux, de 1000 ans de léthargie. De léthargie à tous les niveaux. C'est-à-dire, dans le monde global, je parle le monde Goy, on est dans, on va passer, si tu veux, entre 300 slicha, et 1300, c'est-à-dire entre le déclin de l'Empire romain et le début de la Renaissance, on est en plein milieu du Moyen-Âge, il n'y a pas vraiment de réflexion chez les Goyim, et chez nous, la réflexion est enfermée au Beth Amidrash. Et c'est à ce moment-là qu'on va avoir les grandes yeshivotes de Babylone. Comme j'ai dit, Nardea, Sura, Pompédita, les grandes yeshivotes de Babylone. Pendant un temps, il y aura la yeshiva d'Eretz Israël, mais qui va fermer à cause des Byzantins, comme j'ai dit. Et donc, le centre névralgique du peuple juif sera à Babylone et ensuite à Bagdad. Et si vous voulez, à ce moment-là, eh bien, c'est soit le Talmud, soit les Géonim qui vont être le centre du pays, le centre de la nation juive. Qu'est-ce qui se passe au niveau de la question Eretz Israël à ce moment-là? Elle n'est plus que théorique. Ce n'est plus qu'une question théorique. Pourquoi? Parce que concrètement, venir en Israël à ce moment-là, c'est chaud patate. Il y a des gens qui vont le faire. J'ai rappelé Rabbi Zera tout à l'heure. Il y a des gens qui vont le faire, bien sûr. Mais de manière, en représentant un mouvement, ce n'est pas le cas. Et donc, il va falloir attendre longtemps pour qu'un mouvement de retour en Israël se fasse. Eh bien, il va falloir, comme j'ai dit, attendre 1000 ans, au 12e et 13e siècle, on a une tentative de retour en Israël par des individus qui vont drainer des foules. Qui sont ces gens-là? Eh bien, il y a ce qu'on appelle Aliyat Shlosh Me'ot Arabanim. Aliyat Shlosh Me'ot Arabanim, nous sommes au 12e siècle, donc c'est 1300 et quelques. C'est qui ces rabbins? Alors, je ne vais pas te citer les Shlosh Me'ot, évidemment, mais je vais t'en citer deux, trois qui sont assez révélateurs. D'un côté, vous avez un monsieur qui s'appelle Rabbi David Hanagid. Rabbi David Hanagid, c'est le petit-fils du Rambam, qui était le Dayan au Caire et qui décide de monter en Eretz Israël avec toute sa communauté. D'autres noms, évidemment, que vous connaissez, le Ramban, qui lui, après le fameux vicoire de Barcelone, décide de partir en Israël. Il part seul, mais va servir ici de moked aliyah la regel. C'est-à-dire que le Ramban est venu, donc il y a des gens qui vont venir. Et pour ce que nous, on connaît mieux depuis notre douce France, cher pays de mon enfance, eh bien, il va y avoir la montée de Rabbi Yechiel de Paris. Ah bah oui, ah oui. Là, là, je dis, ne me fais pas des yeux. Ne relève pas le sourcil. Ah non, Rabbi Yechiel mi Paris. Mi ba'alé à Tosafot. Attention, ah, c'est du lourd, Rabbi Yechiel. D'ailleurs, Rabbi Yechiel, il vient en Israël, il va s'implanter à Akko. Il va s'installer à Akko et là-bas, il va créer un bet midrash qu'il appelle, attention, tenez-vous bien, parce que ça, ça ne s'invente pas le nom, Midrasha Rabba de Parishi, le bet midrash à Gadol de Paris. À Akko.
Ça se situait où, ça, dans Paris? À quel endroit?
Mais c'était pas à Paris. Il l'a créé à Akko.
À Akko, pardon.
À Akko, il a créé le Beth Amidrash à Gadol de Paris. C'est ça? Nous sommes ici, à ce moment-là, en 1258. C'est l'alia de Rabbi Yechiel de Paris. Thomas, il a fait mode, Rabbi Yechiel mi Paris, c'est l'ostam. D'ailleurs, entre parenthèses, on a des igrottes. Il semblerait, alors là, je me réserve de toute réalité historique, mais il semblerait que Rabbi Yechiel de Paris aurait inventé l'électricité et l'ampoule incandescente bien avant Thomas Edison. Mais bon, je laisse aux historiens le soin de faire véritablement la vérité dans toute cette histoire. Face à ce mouvement de Aliyat Shlosh Me'ot Arabanim, eh bien, nous avons évidemment nos explorateurs du moment. C'est qui nos explorateurs du moment? Eh bien, c'est ceux qu'on va appeler généralement Chassidei Ashkenaz, qui décident que ce n'est pas le moment. Il ne faut pas, c'est dangereux, et il faut rester la tête baissée, en essayant de sortir son épingle du jeu. Ça ressemble d'ailleurs à l'argumentaire donné par les Meraglim lorsqu'ils reviennent de leur visite en Eretz Israël. C'est trop dangereux. Plus tard, la Renaissance va commencer. Et lorsque la Renaissance commence, eh bien, commence un nouveau mouvement d'intérêt et de désintérêt pour la terre d'Israël. Parmi ceux qui sont les motivés pour la terre d'Israël, eh bien, nous avons évidemment Don Yosef Nassi, duc de Naxos, et sa tante Donna Grazia Nassi, qui vont tout simplement acheter des terres et le droit aux Juifs des Mégourachés Séfarades. On est juste après l'expulsion des Juifs d'Espagne, et va leur permettre de venir s'installer en Israël. On va presque créer une principauté libre dans la Galilée, sous leur impulsion. Donc ça, c'est Don Yosef Nassi qui va évidemment être en contact serré avec un juif qui est déjà en Israël depuis pas mal de temps, qui s'appelle Rabbi Yosef Karo, bien sûr. Et donc là, on est en pleine renaissance d'Eretz Israël, mais par des rabbins qui y sont déjà. Mais il y a également des rabbins qui viennent d'Europe et qui disent « c'est le moment ». Parmi eux, eh bien, vous trouverez Rabbeinu Yishayahu Alevi Horowitz, plus connu sous le nom de son livre « Ashla, Shnei Luchot Abrit ». Donc, Rabbi Yishayahu Alevi Horowitz, 1621, il décide de venir en Israël. Avec lui, vous avez d'autres bonhommes qui vont arriver. Je ne sais pas si vous avez entendu parler d'un monsieur, moi je dis ça, je dis rien, hein, mais par exemple, un monsieur comme Rabbi Moshe Chaim Lutzato, à Ramchal. On est plus ou moins un peu plus tard, mais dans les mêmes eaux. Vous allez avoir un monsieur qui va s'appeler, je ne sais pas moi, peut-être vous connaissez, vous avez entendu parler peut-être, je ne sais pas, de Rabbi Chaim Ben Attar peut-être, Raoua Chaim Akadosh. Tous ces gens-là, c'est l'époque où ça y est, on se réveille à Eretz Israël. Est-ce qu'à ce moment-là, il y a des rabbanim qui s'opposent à la Aliyah à la Haaretz ? Bevadaï ! Bevadaï, ma'am, ta chochev ! D'un côté, la majorité des rabbins italiens, les rabbins de la Renaissance, qui au contraire voient dans l'Italie un endroit où on va pouvoir prospérer. Mais cette fois, ce n'est pas pour des raisons de sécurité, mais c'est parce qu'ils se disent que c'est là que toute la chorma se trouve. Donc au contraire, on va pouvoir avoir une meilleure compréhension de la Torah en restant en Italie. Et nous avons également le début, qui va évidemment prendre un essor beaucoup plus grand plus tard, mais le début de la Itnagdout à Eretz Israël en Europe de l'Est. En Europe de l'Est, par exemple, on peut retrouver ici Rabbi Shalom Sachneh, un des fondateurs du Pilpul, bien que son maître, Rabbi Yaakov Polak, lui ait voulu venir en Israël, ce n'est pas le cas de son élève. Et les fondateurs de cette chita-là de Pilpul, qu'on va retrouver évidemment beaucoup plus tard en Pologne, en Lituanie, eh bien, ne voient pas d'un très bon œil tous ces gens qui partent en Israël. On a toujours donc cette dualité, ce qui va nous amener évidemment au 18e et au 19e siècle. 18e, 19e siècle, alors là, ça commence à devenir proche de nous pour ce qui est de, des rabbanim qui sont pour la Alia, pour ce qui est des Yehoshua et Kalev du 18e, 19e, eh bien, vous avez évidemment le Baal Shem Tov qui va envoyer tous ses élèves en Israël. On parle de la Alia des Hasidim en 1777. Et puis, quelques 30 ans plus tard, l'Alia des élèves du Gaon de Vilna, Rabbi Israël Mishklov, qui va écrire le livre Kol HaTor en 1808, la Alia des Talmidei Agra. Et après, à la fin du 18e, eh bien, nous aurons évidemment, enfin du 19e, nous allons avoir les rabbins de Chovevei Tzion, le natif de Vologine, et avant eux, le Rav Gutmacher, le Rav Kalischer. Donc, on a ici ce réveil de la Torah vers Israël. Évidemment, tu as compris que tous ces rabbins-là sont Bedat Miout, sont en minorité. Il y a des géants de la Torah qui vont être totalement et fondamentalement opposés au sionisme. De cette époque, je précise. Et pourquoi je le précise ? Parce que pour l'instant, on ne peut pas encore parler d'opposition simplement parce qu'ils ne sont pas religieux, les sionistes. Parce que tous ceux qui parlent de venir en Israël ou qui y viennent, c'est des rabbins. Donc, on va s'opposer au sionisme pour des raisons idéologiques et pas pour des raisons de fait que monsieur et madame ne sont pas religieux. On va retrouver là-bas Rabbanei Hungaria, les rabbins de Hongrie qui vont devenir les grands combattants contre le sionisme. On va avoir un porte-drapeau en Europe centrale qui s'appellera le Rav Shimshon Raphaël Hirsch, qui va rencontrer d'ailleurs le Rav Gutmacher et le Rav Kalischer, qui étaient des pro-sionistes à fond, et il leur dit « Ce que vous voyez comme une grande mitzvah, je le vois comme une faute et pas parmi les plus petites. » Parce que pour le Rav Hirsch, puisque les goyims nous ont permis d'avoir l'émancipation, c'est le moment que Dieu a choisi pour qu'on reste en exil et que de l'exil, nous puissions influencer Kdusha v'Tahara, le Kol HaOlam Kulo, et l'Allemagne nous dira merci. Bon, je suis moyennement sûr que l'Allemagne, elle ait dit merci. Hein. Je ne sais pas, hein, mais historiquement, ça me paraît quand même assez flou, cette histoire. Et puis, il y a un autre groupe juif qui va faire des petits et beaucoup de petits, qui est fondamentalement opposé au sionisme au XVIIIe siècle et surtout au XIXe. C'est qui ces gens-là? Eh bien, vous les connaissez bien. C'est Yahadut Tsarfat. Ah bah oui, puisque 1800 et quelques voient le sacre de Napoléon, ainsi commence le XIXe siècle, et le sacre de Napoléon voit également bah, la construction, la formation du grand Sanhédrin de Paris et du consistoire central des Juifs de France. Quelle va être la position du consistoire des Juifs de France par rapport à la montée en Israël? Eh bien, ils y sont fondamentalement opposés. Soit, vous allez me dire, parce qu'ils ont peur des représailles napoléoniennes, puisque je vous rappelle que le grand Sanhédrin de Paris a dû répondre à 12 questions. 12 questions que lui a posées Napoléon pour savoir si oui ou non ils allaient recevoir les Juifs, la citoyenneté française. Et parmi ces questions, évidemment, il y avait « Est-ce que la France est votre seule et unique patrie ?» Ils ont répondu que oui. Sinon, on n'aurait pas de passeport français, ni vous ni moi. Et donc, il y a peut-être une question de peur, que je n'ai pas envie de chauffer Napoléon en lui parlant d'Eretz Israël, mais il y a également une majorité de Juifs de France qui, après avoir reçu l'émancipation et la citoyenneté, voient dans la Révolution, les droits de l'homme, eh bien, un idéal messianique mamache. Et donc, on reste en France. Qui mi Paris, etc., ou Dvar Hashem, mi rue des Rosiers. Donc, on a ici une autre opposition au sionisme au 19e, qui est une opposition idéale de dire que ça ressemble un peu à ce que les rabbins d'Italie disaient au début de la Renaissance. Ici, on va pouvoir véritablement avoir un impact. Ici, je te parle là-bas. Mais il y a tout d'un coup une autre opposition au sionisme. Car jusqu'à présent, tous les opposants au sionisme, qui, je le rappelle, n'est autre que la mitzvah d'Akadosh Baruch Hu, au cas où on aurait oublié, pour la première fois, parce que jusqu'à présent, tous les opposants au sionisme sont des rabbins. C'est-à-dire, c'est mitor Torah qu'on s'oppose. Ce qui est absurde, mais qui est les faits. Tout d'un coup, au 19e, eh bien, on va avoir des oppositions au sionisme qui ne viennent pas du monde de la Torah. Qui viennent du monde juif, mais pas de la Torah. Et c'est là-bas qu'on va retrouver le baron, lequel? Quel baron? Ben de Rothschild. Vous allez me dire, mais non, le baron de Rothschild, il ne s'est pas opposé au sionisme, qu'est-ce que tu racontes? Le baron de Rothschild, il a créé plein de choses ici. Tu plaisantes ou quoi? Il est même enterré en Israël et tout. Attends, hey, oh, de quoi tu parles? Oui, mais au départ, le baron de Rothschild, il est très pote avec un autre baron, le baron de Hirsch. Et le baron Maurice de Hirsch, eh ben, lui, il n'est pas du tout fan du sionisme. Il pense qu'au contraire, amener des juifs en Israël, ça va être encore pire. Donc, il veut envoyer des juifs en Argentine. Là-bas, il est prêt à acheter plein de territoires. Et il convainc son ami Edmond, de Rothschild, d'aller avec lui. Et ils sont chauds patates tous les deux pour l'Argentine. Seulement, juste avant d'acheter, ils ont un éclair de génie et ils vont quand même aller voir le grand rabbin de France, parce qu'ils sont en France tous les deux, de l'époque, qui s'appelait le grand rabbin Zadok Khan, à Cohen. Rav Tzadok à Cohen. Et à ce moment-là, le Rav à Cohen leur dit « Mais pourquoi l'Argentine ? L'Argentine, c'est échanger une galoute pour une autre galoute. Quel intérêt ? Rak Eretz Israël. » Il y a un des deux barons qui est resté sur l'Argentine, l'autre qui a écouté. De tous les juifs que le baron de Hirsch a envoyés en Argentine, aujourd'hui, 100 ans plus tard, il reste moins d'un tiers. Tous les autres se sont assimilés. De tous les juifs que le baron de Rothschild a amenés en Israël, on a créé l'État d'Israël. À vous de voir qui avait une vision un peu plus juste de l'histoire. Mais en tout cas, c'est la première fois qu'on va avoir des gens qui ne sont pas du monde de la Torah qui prennent position sur l'histoire de la terre d'Israël. C'est également un Gilgoul des explorateurs. Tu peux être un Gilgoul avec une barbe ou sans barbe. Et puis finalement, on va arriver à l'époque du sionisme national. C'est-à-dire le sionisme herzélien, le sionisme juste avant Herzl. Et là-bas, on va retrouver évidemment des gens qui sont pour le Congrès sioniste mondial, l'Organisation sioniste mondiale, ce que tu veux, des rabbanim, le Rav Reines, le natif de Volozhin, plus tard le Rav Kook, évidemment. Et face à eux, et vous le savez, c'est là qu'on va avoir droit à une opposition absolument fantastique du monde de la Torah, qui va prendre un nouveau tremp. Le tremp, c'est quoi? C'est que ceux qui dirigent le retour sioniste ne sont pas Yehoshua et Kalev, ne sont pas des tzadikim, a priori. Donc, on ne va même pas chercher à savoir si c'est bien ou si c'est pas bien, c'est pas bien. Et parmi les grands noms, et je parle de grands noms, tu disais tout à l'heure, c'est des grands rabbanim, des géants de la Torah. On va avoir le Rav Elchanan Wasserman, on va avoir Reb Yoel Teitelbaum, on va avoir Reb Chaim de Brisk, on va avoir, Rabbi Ishayou Zilberstein, on va avoir, par exemple, Rabbi Shmuel Dovber, pas Shmuel, Dovber Milubavitch, le cinquième rabbi de Chabad. Ah non, c'est pas du petit nom, hein, c'est des gros noms. Fondamentalement opposé au sionisme. Le Rav Elchanan Wasserman va écrire un livre qui s'appelle Kovetz Ma'amarim, dans lequel il est excessivement violent contre le sionisme. Le Rav Yoel Teitelbaum, j'ai pas besoin de le dire, il va écrire son livre Vayoel Moshe, complètement anti-le sionisme. Le Prime de Brisk, il ne va pas écrire un livre contre le sionisme, mais il est sacrément opposé. Kitsour, on a ici des rabbins qui sont fondamentalement opposés à ce qui se passe ici, et leur raison toranique, ce n'est pas la raison du Rachar Hirsch, que maintenant c'est un idéal de rester en Allemagne, nanana, pas du tout. C'est que puisque ceux qui portent le drapeau sioniste sont des pas religieux au niveau de la Torah, c'est que forcément ce qu'ils prônent, c'est l'œuvre du Satan. Parce que si ça avait été l'œuvre de Dieu, ça n'aurait pas été porté par eux. Ils s'en fichent que dans Chovevet Tzion, c'était tous des mecs avec des péotes. Ils s'en fichent qu'aux côtés de Herzl, on a plein de religieux et de rabbanim. Ils disent ceux qui portent le projet sont des pas religieux, donc c'est l'œuvre du Satan. Rabotai, que les choses soient bien claires. Ze a meraglim. Aussi grand soit-il en Torah, il n'y a pas de doute qu'ils étaient des géants de la Torah. Je tiens à rappeler que les 10 explorateurs qui vont être des explorateurs à l'origine, on les appelle dans la Torah Rashi Bene Israël Hemma. Ce sont les chefs du peuple juif, spirituellement parlant, à l'époque de Moshe. Donc pas des petits joueurs non plus. Et puis il y a un nouveau Gilgoul des explorateurs. Mais c'est toujours les explorateurs, attention. Hein. Les explorateurs de après Médinat Israël. Parce que oui, maintenant que le sionisme a gagné, il y a toujours des explorateurs qui ne veulent pas y aller. Mais sauf que là, on va retrouver les mêmes qu'avant. On va retrouver les explorateurs Haredim qui disent qu'il ne faut pas y aller, même après la construction de l'État d'Israël, mais je ne vais pas m'étendre dessus. Mais tout d'un coup, on va avoir, juste avant et juste après, hein, on est vraiment dans les moments où on crée l'État d'Israël, on va avoir tout d'un coup des nouveaux opposants. Par exemple, avant la création de l'État d'Israël, on va avoir un opposant fondamental au sionisme qui s'appelle le Bund. C'est un mouvement de jeunesse en Europe de l'Est, particulièrement en Pologne, qui se veut socialiste, polonais et pas religieux. Et eux, ils prônent un judaïsme polonais socialiste. Certainement pas la Shomer HaTzahir de Ben Gurion. Certainement pas. Il va y avoir une autre, c'est pas vraiment les explorateurs, c'est un peu plus compliqué, un mouvement qui s'appelle le mouvement Knaani. Des juifs en Israël qui voulaient se détacher complètement d'identité juive et revenir à une identité cananéenne. Bon, mais ça n'a pas vraiment marché. Et puis, il y a, tout d'un coup, après la création de l'État d'Israël, et particulièrement en ce moment, un nouvel opposant au sionisme, qui est aujourd'hui, en termes de nombre, le plus grand opposant au sionisme. Je parle à l'intérieur du peuple juif, hein, on ne va pas parler des Arabes non plus. Mais à l'intérieur du peuple juif, le plus grand opposant au sionisme aujourd'hui, il faut savoir que c'est aussi des explorateurs, il s'agit du monde réformé. Ah bah oui, le monde réformé, il ne peut pas être fan d'Israël, hein. C'est pas possible. Puisque la question de la léoumiout, c'est pas une question qui est... c'est pas un point qui est, qui est non seulement important, mais qui est central dans le monde réformé. Donc, on va avoir une opposition énorme aux États-Unis du mouvement réformé au sionisme. Rabotai, le point commun de tous ces gens-là, depuis 3000 ans, c'est qu'ils sont les Gilgoulim des explorateurs. Mais pourquoi les explorateurs, à l'origine, n'ont pas voulu rentrer en Israël? Il y a, d'après la Torah, une raison, on va dire, géopolitique et militaire. On n'y arrivera pas. C'est ce qu'ils vendent au peuple. Ça passe. Mais peut-être que c'est aussi profond. Peut-être que certains d'entre eux, effectivement, ils ont eu peur. C'est ce que la Torah nous dit. Pour le Talmud, c'est une autre raison. Pour le Talmud, ils ont dit « Ki chazak hu mimeno » que la spiritualité de la Avodah Zara qu'il y a en Israël est trop puissante et Dieu n'arrivera pas à s'imposer là-bas. Dieu, il s'impose dans le désert, mais quand on arrive en Israël, on sera trop influencé par la spiritualité artzit de Eretz Israël. Donc c'est pour ça qu'il vaut mieux rester dans le désert, dans un monde de Torah, sans être influencé par les danses populaires le vendredi soir à Tel Aviv. D'après le Sefer HaZohar, c'est autre chose. Le Zohar il nous dit qu'ils ont été opposés au projet parce qu'ils ont su que s'ils rentraient en Israël, ça ne serait plus eux les dirigeants du peuple, qu'ils seraient remplacés par des nouveaux dirigeants d'Eretz Israël. Alors, tu peux le voir comme tu veux. Soit c'est juste que c'était des politiciens, toute ressemblance avec un cas actuel serait pour en fortune involontaire, évidemment, hein, que ce ne sont que des politiciens qui veulent rester sur leur poste, ou alors tu peux voir qu'il y avait une vraie daaga. Genre, attends, mais je le connais, mon remplaçant. Il est beaucoup moins fort que moi en Torah. Et c'est vrai, d'ailleurs. Nachon, il est beaucoup moins fort que toi en Torah, mais il a aussi il a des capacités en milchama. Et lui, il a des capacités en agriculture. Et lui, il a des capacités en économie. Et on va en avoir besoin là-bas. Dans le désert, on avait besoin de rien d'autre que la Torah. Et donc, le Zohar a dit, il ne voulait pas être remplacé par d'autres têtes. Emmanuel Levinas, il a une explication extraordinaire sur pourquoi les explorateurs, ils ont refusé de rentrer. Ils ont dit, on a un problème moral. Attends, il y a des Palestiniens là-bas. Tu ne vas pas pouvoir les chasser, ça ne se fait pas. Et ça, c'est le dernier Gilgoul des explorateurs. C'est quoi le dernier Gilgoul des explorateurs? Il provient et d'Israël et de l'extérieur d'Israël. Il s'appelle le post-sionisme. C'est toute cette chita qui dit aujourd'hui que Zélo Besséder qu'on est ici et on est en train de conquérir la terre de quelqu'un d'autre et qu'est-ce qu'on fait là de toute façon? Et puis le peuple juif, finalement, c'était qu'une légende. Et puis il vaut mieux être un Européen. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Kol ze zechet ameragli. Et il ne faut pas oublier une chose. Dans le désert, il y a eu deux grosses fautes. La faute du Vaudor et la faute des explorateurs. La faute du Vaudor a été pardonnée. Non sans mal, mais a été pardonnée. Finalement, Dieu a dit « Vayomer Hashem salachti kidvarecha ». La faute des explorateurs n'a pas été pardonnée. Toute la génération du désert est morte dans le désert. La différence entre ces deux fautes, c'est que la faute du veau d'or, c'est une faute d'empressement. C'est-à-dire, on est trop pressé de vouloir avoir un truc pour servir Dieu. Et donc, ça a mal tourné, c'est devenu le veau d'or. S'ils avaient entendu quelques minutes, ça serait devenu les Krouvim qu'on aurait mis au Mishkan et à Koltov. Ils ont été trop pressés. Et très souvent, quand on est trop pressé, on fait des erreurs. La faute des explorateurs, c'est une faute de retard. Dieu t'a dit « c'est le moment » et toi, tu l'as dit « non, ce n'est pas le moment ». Et c'est beaucoup plus grave. C'est beaucoup plus grave quand tu dis à ta femme « j'ai fait avant que tu me dises les courses » et tu t'es planté dans les courses. Alors, tu vas te faire engueuler. Mais au final, ce n'est pas très grave. T'as aidé, bon, la prochaine fois, tu attendras que je te fasse la liste. D'accord, mais au moins, il a pris sur lui, il a été faire les courses, il est content. Alors que si elle te dit, tu peux aller faire les courses, s'il te plaît ? Non, j'ai pas envie. Je ferai demain. Non, mais demain, je peux pas, il faut que je prépare Shabbat maintenant. Non, ça me saoule. Je peux t'assurer que la dispute, elle va être autrement plus difficile.
Pourquoi tu te rends toujours un sujet difficile comme ça ?
Ben parce que je parle de vécu, qu'est-ce que tu crois ? Je ne parle que de choses que je connais personnellement.
Ouais, ça concerne que toi alors.
Voilà, que moi, que moi. Donc il ne nous reste plus qu'à dire une seule chose. Il nous dit Rabbi Israël Mishklov, donc l'élève du Gaon de Vilna dans son livre Kol HaTor, il dit d'ailleurs une phrase terrible, il dit c'est terrible parce qu'il y avait plein de juifs qui voulaient monter en Israël dans le chapitre 5 de Kol HaTor. Il dit il y avait plein de juifs qui voulaient s'organiser pour venir en Israël avec nous et qui ont été refroidis par certains mitofse à Torah chez lo yodim velo mevinim. C'est pas mal. Il y a plein de juifs qui voulaient monter en Israël et puis il y a des rabbins qui les ont déchauffés. Dommage que ce soit des rabbins qui ne connaissent rien. C'est dur ça. Mais il va continuer à nous dire Beshem Rabo, Beshem Agra, que la faute des explorateurs, le yetzer de ne pas vouloir monter en Israël, c'est un yetzer qui est tokef particulièrement les Talmidei Chachamim. Parce que la notion de Talmid Chacham est beaucoup plus compliquée en Israël qu'elle ne l'est en Choul. En Choul, le Talmid Chacham, il est Talmid Chacham. En Eretz Israël, le Talmid Chacham, il doit être aussi dans la vie de tous les jours. Et c'est beaucoup plus compliqué. Mais en mala asot, nous, on a décidé de suivre l'enseignement d'Akadosh Baruch Hu et Dieu nous a dit de rentrer. Alors, on est rentré et il ne nous reste plus qu'à être la génération qui, malgré vents et marées, contre vents et marées, eh bien, va être la génération qui va réparer la faute des explorateurs et qui va continuer à prendre possession de cet endroit en Judée, en Samarie, avec une souveraineté juive mise Dan, Vead, Elat, en passant par tout l'Est et tout l'Ouest, pour qu'on puisse véritablement remplir la mission que Dieu nous a donnée de devenir une lumière pour toute l'humanité. Et ben voilà, Shabbat Shalom, Chazak Ubaruch.
Amen, 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 merci beaucoup,
Chazak Ubaruch.
Chazak Ubaruch.
Bye.